22h, vous êtes bien sur Europe 1. Tout de suite, le journal Victor Dolande.
J'ai été comblée dans ce que je voulais comme combat. J'ai été comblée en amour. Plus j'ai réfléchi et plus je me dis, j'aurais jamais voulu avoir une autre vie.
Infatigable avocate, pionnière du combat féministe, Gisèle Halimi s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Toute l'Europe redoute la recrudescence des cas de coronavirus. En France, des clusters inquiètent en Mayenne et les autorités imposent le port du masque dans 4 communes. Deuxième journée de débat à l'Assemblée nationale autour du projet de loi bioéthique et un Premier ministre ferme, très ferme vis-à-vis de ses anciens amis politiques de droite.
Nous sommes, monsieur le président Abad, devant la nécessité de comprendre les évolutions de notre société.
Le fabricant de chaussures André autorisé à poursuivre son activité. Décision favorable aujourd'hui du tribunal de Grenoble pour la seule offre de reprise sur la table. Et puis Thomas Pesquet repartira bientôt dans l'espace. Ce sera en mars 2021 à bord de SpaceX.
Je suis évidemment extrêmement content et enthousiaste d'y retourner, mais ce n'est pas la même disposition. La première fois, j'étais un débutant et là, je suis un vétéran.
La Bourse de Paris clôture en léger repli de 0,22% à 4 928 points. Météo complète à la fin du journal avec Valérie Darmon. Et puis, comme chaque soir cet été, on vous proposera un peu de lecture avec les conseils de Stéphane Place. Et puis, on essaiera de trouver l'inspiration avec la bonne idée de Thierry Dagiral.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une immense figure du féminisme s'est éteinte aujourd'hui. L'avocate Gisèle Halimi avait 93 ans. Elle fut ce qu'on appelle une pionnière, infatigable avocate. Elle a ouvert les portes, Rémy Botsaron, dès les années 70, du grand combat pour le droit des femmes.
Oui, grâce à deux procès retentissants. D'abord, le procès de Bobigny. On est en 1972. Gisèle Halimi défend une jeune fille de 16 ans poursuivie en justice pour avoir avorté après un viol. Et elle obtient sa relaxe en attaquant la loi qui interdisait l'avortement. Elle poursuit en fait le combat entamé un an plus tôt quand elle signait le fameux appel des 343, ces femmes qui déclaraient publiquement avoir avorté. Et ce qu'elle dit à l'époque permet de comprendre comment cette victoire a ouvert la voie, 3 ans plus tard, à la loi Veil, donc à la dépénalisation de l'avortement.
Il y a cette revendication que j'estime absolument fondamentale pour les femmes que nous sommes d'avoir le droit de disposer de nous-mêmes. Le drame, je le disais, c'est que 4 femmes aient à s'adresser pour cela, parlant de sonde, d'utérus, d'avortement et de grossesse. 4 femmes étaient aujourd'hui jugées par 4 hommes. Et voyez-vous, en raccourci, symboliquement, c'est toute la condition de l'oppression de la femme.
La condition de la femme, c'est encore ce qui est en jeu 6 ans après Bobigny devant les assises d'Aix-en-Provence. C'est ce qu'on appellera le procès du viol. Gisèle Halimi défend 2 jeunes femmes belges violées par 3 hommes alors qu'elles campaient dans une calanque. Elle veut obtenir la criminalisation du viol. Les hommes sont condamnés. 2 ans plus tard, la loi change. Le viol est reconnu comme un crime. 2 procès, 2 combats, 2 victoires pour Gisèle Halimi. Cette femme s'impose alors au milieu de Simone Veil, de Simone de Beauvoir ou de Delphine Seyrig comme l'une des grandes voix de la cause des femmes dans les années 70.
Merci Rémy Botsaron. Les hommages se multiplient depuis sa disparition. La France perd une républicaine passionnée et une grande combattante de l'émancipation des femmes, a déclaré Emmanuel Macron. Son obsession, c'était la justice pour tous, et je devrais peut-être dire pour toutes, a déclaré le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti devant l'Assemblée nationale, où l'ancienne députée a été longuement applaudie tout à l'heure. Écoutez à présent la réaction de Céline Pic, la porte-parole de Oser le féminisme.
Elle a transmis surtout une ténacité face à l'adversité. Il faut se souvenir que dans les années 70, les réactions étaient nombreuses et extrêmement violentes contre elle, hein, lors du procès d'Aix, le procès du viol. Elle était insultée, menacée, et je pense qu'elle n'a toujours tenu bon. Et je pense que c'est ça dont on peut essayer de s'inspirer aujourd'hui dans nos luttes féministes. Elle refusait un statu quo qui lui semblait injuste et elle a lutté pour gagner des batailles décisives. Et je pense que c'est sa ténacité et sa brillance intellectuelle qui peut nous nourrir aujourd'hui dans nos luttes et nos combats quand nous ne sommes nous aussi attaqués ou vilipendés comme le fut la génération MeToo par un certain nombre de misogynes qui propage encore la culture du viol qu'elle dénonçait déjà il y a 40 ans.
Céline Pic, porte-parole de Oser le féminisme, joint pour Europe 1 par Hélène Terzian. L'épidémie de Covid-19 a fait 14 morts de plus en 24 heures en France, ce qui porte le total du nombre de décès à 30 223 depuis début mars. Des nouveaux clusters inquiètent les autorités, notamment en Mayenne. département métropolitain le plus touché. 4 villes de Mayenne ont justement décidé depuis ce matin d'appliquer le port du masque obligatoire dans l'espace public. Les autorités, Charles Guyard, ne veulent prendre aucun risque.
Oui, c'est en effet le cas depuis ce matin dans deux secteurs très fréquentés du centre-ville de Laval où les services n'ont pas eu le temps encore d'installer des panneaux, comme c'est le cas à Château-Gontier par exemple. Cela n'empêche pas les habitants d'être plutôt au courant, comme Marion, qui trouve même la mesure normale.
Oui, c'est logique. Ouais. Dans les magasins, quand les gens ils portent le masque, ils le mettent soit n'importe comment ou ils le mettent vite fait.
Un peu plus loin, dans cette rue piétonne, Jonathan, lui, est dubitatif. S'il se plie à la règle, il ne l'approuve pas spécialement.
Je trouve que c'est quand même infantilisant vis-à-vis de la population française. Ils nous ont vraiment pris pour des enfants et ils continuent à le faire. Ils auraient pu simplement parler en fait, avec un discours de vérité, ça aurait été plus simple.
Ce discours de vérité, le maire de Laval, Florian Berco, se charge de le tenir, notamment en écartant la perspective d'un reconfinement.
L'hypothèse n'est pas sur la table aujourd'hui, à date. Je pense qu'il y a encore d'autres mesures qui sont possibles avant d'arriver à un reconfinement.
Et parmi ces mesures, il y a notamment l'isolement volontaire. À Laval, l'agglomération montre même l'exemple, malgré elle évidemment, puisque sur 1600 agents, une cinquantaine sont en effet assignés à domicile en ce moment, après avoir été en contact avec 7 de leurs collègues testés positifs. En outre, une trentaine d'autres personnes ont été envoyées dans des logements mis à disposition par la ville. Dans ce contexte, tout n'est cependant pas si sombre. S'il reste 14 malades hospitalisés en Mayenne pour cause de Covid, il n'y a plus aucun patient en réanimation à l'heure actuelle.
Charles Guyard, notre correspondant dans l'ouest de la France. C'est toute l'Europe qui s'inquiète maintenant d'une recrudescence de l'épidémie qui multiplie les messages de prévention et qui durcit les mesures pour faire reculer le virus. Pierre Herbulot.
Oui, dernier pays en date, l'Allemagne. 2 fois plus de cas journaliers détectés depuis le début de la semaine. Pour l'Institut de veille sanitaire, le constat est alarmant. D'où cette très forte recommandation de porter le masque même en extérieur. Oui, sauf que les Berlinois sont beaucoup moins inquiets que les scientifiques. C'est le constat fait par Flavia.
Oui, le port du masque, il est conseillé, mais je ne pense pas que les gens, ni moi non plus d'ailleurs, le prennent très sérieusement. D'après ce que je vois, non, il y a plein de gens autour de moi, sans aucun masque, et ils sont tous tranquilles, quoi. Profitent de leur bière et de leur schnitzel. C'est pas obligatoire, non. Sinon, on le porterait, quoi. Si c'était obligatoire, on porterait les masques, mais on voit bien que si c'est pas obligatoire, on ne porte pas des masques.
L'Allemagne déconseille aussi à ses ressortissants de voyager vers certaines régions d'Espagne. La Norvège et la Grande-Bretagne soumettent, eux, les passagers qui en reviennent à une période d'isolement. En Catalogne, justement, où le virus recircule rapidement, un couvre-feu a été mis en place pour les bars et les restaurants. Enfin, la Belgique serre aussi la vis. Le nombre de personnes que les Belges sont autorisés à voir hors travail passe de 15 à 5 pour un mois. On appelle ça une bulle de contact. C'est donc une forme de confinement social qui est imposée.
Merci Pierre Herbulot. Et pour être tout à fait complet sur cette pandémie, sachez que l'Espagne s'est montrée très ferme aujourd'hui vis-à-vis de ses voisins européens, comme la France ou l'Allemagne, qui déconseille à ses ressortissants les voyages dans certaines régions espagnoles. L'Espagne est une destination sûre qui s'est préparée et renforcée pour faire face au virus, a déclaré la porte-parole du gouvernement.
Europe 1, le journal de la nuit.
4 enfants sont morts cet après-midi dans un accident de la route impliquant 5 véhicules sur la Nationale 2 en direction de Laon, dans les Hauts-de-France. Le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, s'est rendu sur place. Il détaille les conditions dans lesquelles s'est produit ce terrible accident.
Nous sommes sur un axe circulant, mais à une heure qui n'était pas spécialement propice au bouchon, au ralentissement. L'accident s'est produit environ à 15 heures. Sur une route qui connaissait dans un sens un ralentissement, il semblerait qu'un camion, pour une raison non élucidé à ce jour, se soit déporté sur sa gauche, qu'un véhicule en sens inverse l'ait percuté une première fois et que ce même véhicule ait été percuté par l'arrière. Vous voyez, nous sommes face à un accident de la route aux conséquences absolument tragiques qui devraient être explicitées dans ses déterminants techniques. Évidemment, une émotion particulière, je crois, qui fait écho aux pères et aux mères de famille que nous sommes quand nous voyons des victimes qui sont jeunes.
Une bonne nouvelle pour le célèbre fabricant de chaussures André. Le tribunal de Grenoble a validé aujourd'hui l'offre de reprise. Et malgré une période très compliquée à cause du coronavirus, André va survivre. Et ce, grâce à un ancien patron de l'entreprise, Clément Le Saffre.
Oui, François Feijot a dirigé André de 2005 à 2013. Les syndicats se souviennent que c'est le dernier à avoir réussi à faire gagner de l'argent à l'enseigne, qui enchaîne depuis des dizaines d'années les difficultés. Mais la cure d'amaigrissement va être sévère pour André. François Feijot doit reprendre seulement 55 magasins sur les 180 points de vente existants. Et seuls 221 emplois seront maintenus sur 409. André, c'est pourtant une marque mythique du monde de la chaussure. L'histoire commence en 1896 à Nancy, quand Albert Lévy s'associe à un homonyme, Jérôme Lévy, pour se lancer dans la fabrication de chaussures. Ils ont une vision, il faut fabriquer et surtout vendre ensuite en masse des chaussures pas trop chères dans des magasins. Ironie de l'histoire, au début, ils optent pour Mathieu comme nom de magasin. C'est en 1904, quand il rachète deux boutiques qui s'appellent André, qu'il décide de changer de nom. En 1978, année record, le groupe écoule plus de 10 millions de paires. André comptera jusqu'à 500 boutiques en France et à l'étranger. Cette fois, la relance s'annonce beaucoup plus modeste.
Merci Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Deuxième journée d'examen de la loi bioéthique au Parlement. Un projet de loi qui, je le rappelle, prévoit l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes. Et pour cette deuxième journée de débat, Jean Castex a eu des mots très forts. Le Premier ministre ne s'est pas privé de remettre à leur place des élus de droite qui furent pourtant ses anciens alliés politiques.
Nous sommes, monsieur le président Abad, devant la nécessité de comprendre les évolutions de notre société. Nous sommes également devant la nécessité d'apaiser cette société, d'apaiser cette société. Et je pense, comme vous toutes et vous tous, que c'est ce chemin que vous suivrez dans quelques jours.
On rappelle que 2300 amendements ont été déposés pour ce projet de loi. À l'étranger, la police allemande a passé au peigne fin toute la journée un jardin ouvrier près de Hanovre. Des recherches en lien avec la disparition de la petite Britannique Maddy en 2007 au Portugal. Cette affaire a connu une accélération soudaine depuis deux mois avec l'identification d'un nouveau suspect, un pédophile allemand multirécidiviste déjà condamné pour un viol au Portugal et actuellement en détention. Ces recherches pourraient confirmer les convictions des enquêteurs allemands qui ont été les premiers à affirmer que Maddy, disparue il y a 13 ans à l'âge de 3 ans, était morte.
Europe 1, le journal de la nuit. Victor Delande.
L'astronaute français Thomas Pesquet va bientôt ressortir sa combinaison. Il a annoncé aujourd'hui qu'il décollera en mars prochain de Cap Canaveral, en Floride. Et pour sa deuxième mission dans l'espace, lors d'Autriche, l'astronaute français utilisera la nouvelle capsule SpaceX d'Elon Musk.
Oui, et il sera le premier Européen à voler à bord de ce vaisseau de SpaceX, hein, créé effectivement par Elon Musk, dans un cockpit futuriste composé à 100% d'écrans tactiles. On est donc loin de la fusée qu'il avait utilisée pour sa première mission, la fusée russe Soyouz, utilisée depuis des décennies par les astronautes et qui avait ces dernières années le monopole sur les vols habités. Ce vaisseau américain peut accueillir jusqu'à 4 astronautes au lieu de 3 pour la fusée russe. Thomas Pesquet partira en effet en mars prochain avec 3 autres collègues, 2 Américains et 1 Japonais, direction la Station Spatiale Internationale pour 6 mois. Et cette deuxième mission, eh bien, Thomas Pesquet l'appréhende d'une manière différente.
Je suis évidemment extrêmement content et enthousiaste d'y retourner, mais ce n'est pas la même disposition. J'ai tendance à plus répartir mon effort en fait en termes d'entraînement. La première fois, on veut tout savoir par cœur, on veut absolument être au point sur tout. Et la deuxième fois, par contre, ben, je sais qu'il y a des choses qui ne me serviront pas parce qu'on a toujours le temps de demander au centre de contrôle. Donc j'ai cette approche un petit peu différente. La première fois, j'étais un débutant et là, je suis un vétéran.
Sa mission s'appellera Alpha, comme Alpha du Centaure, cette zone d'étoiles la plus proche de la Terre. Et pour l'heure, Thomas Pesquet est en phase d'entraînement. Il apprend effectivement à maîtriser notamment ce nouveau vaisseau américain. Et il a toujours aussi un intense entraînement physique en piscine, habillé de son scaphandre, pour se préparer à d'éventuelles sorties dans l'espace.
Merci Lord Autriche. Allez, restons un peu la tête dans les étoiles. La nuit des étoiles se profile, promesse d'astrologue. Ce soir et demain soir, vous n'aurez qu'à lever la tête pour voir des centaines d'étoiles filantes. L'astrophysicien Pierre Crousaleb nous donne justement quelques conseils pour mieux observer ces étoiles.
Il faut d'abord que vous ayez une nuit sans lune. Donc là, ça tombe bien parce que c'est le premier quartier. Donc le premier quartier va se coucher vers minuit. Il faut bien sûr être en dehors de la pollution lumineuse, donc en dehors des villes. Généralement, ce que je conseille, si vous voulez bien voir les étoiles filantes, vous allez en montagne. Il ne faut pas regarder vers le sud, les deltas aquariques du sud, vous les voyez bien, côté est, côté ouest et côté nord. Ce sont des étoiles filantes que vous verrez bien le matin, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Donc il faudra se lever vers 3h du matin, quelque chose comme ça, pour bien les voir. Donc il faut se fixer une zone du ciel sans en changer, c'est-à-dire vous regardez par exemple vers le zénith, par exemple au-dessus de votre tête, et on attend à peu près un quart d'heure, une demi-heure, et en général vous allez en voir passer. C'est 20 par heure, mais dans des conditions idéales, donc si vous restez une heure, vous en verrez une dizaine.
Pierre Crouzaleb, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, joint par Sarah Calamand. En sport, une date à retenir pour les passionnés de cyclisme, le 26 juin 2021. Le Tour de France 2021 a été avancé d'une semaine par l'Union cycliste internationale, avec un coup d'envoi fixé donc au 26 juin, un départ délocalisé à Copenhague, au Danemark. La décision de l'UCI est due au report d'un an des Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis en football, comment donc suivre les compétitions européennes la saison prochaine? C'est la grande question des passionnés de football. Pour rendre son offre plus attrayante, le groupe espagnol à capitaux chinois Mediapro, qui a déboursé, rappelons-le, plus d'un milliard d'euros pour acquérir les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, annoncé ce matin, Christophe Lamar, être en mesure de codiffuser également la prestigieuse Ligue des Champions. Un accord a été scellé avec l'actuel détenteur des Coupes d'Europe, RMC Sport.
Oui, et tout le monde y trouve son compte dans l'affaire. RMC Sport, en premier lieu, la filiale d'Altice, débourse 350 millions d'euros par an pour diffuser la Ligue des Champions. L'accord lui permet de partager les frais. Le groupe de Patrick Dahi trouve là un moyen d'alléger la facture alors qu'il doit gérer un plan social de grande ampleur. Pour Mediapro, la Coupe d'Europe, c'est le produit d'appel idéal pour séduire les abonnés. Son directeur général, Julien Bergeot, est convaincu de jouer gagnant.
C'est dire qu'on va avoir une seule chaîne qui va offrir le meilleur du football pour 25,90 €. Je pense que là, c'est vraiment une réponse qu'on peut apporter à tous ceux qui seraient tentés d'aller s'abonner à du streaming pirate pour suivre la chaîne Téléfoot.
Alors, 25,90 € à condition de s'engager pour un an. Sinon, ce sera 29,90 €. Mediapro a défini son objectif, atteindre la barre des 4 millions d'abonnés pour rentabiliser son investissement. Un chiffre qui laisse certains économistes et certains spécialistes des droits télé plutôt sceptiques.
Toujours en football, coup dur pour le Real Madrid à 10 jours de son match capital contre Manchester City en Ligue des Champions. L'attaquant Mariano Diaz, ancien joueur de l'Olympique lyonnais, a été testé positif au Covid-19 et doit rester à l'isolement à son domicile. Une quarantaine qui lui fera donc rater ce match décisif. Il est 22h17 sur Europe 1. L'heure de jeter un œil à la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
La météo avec vous, Valérie Darmon. Et pour demain, Valérie, du bleu, du soleil et quelques petits nuages.
Beaucoup de soleil ce mercredi sur le pays, avec cependant quelques nuages des Pyrénées au Massif central jusqu'aux Alpes. La grisaille du matin sur le sud de l'Aquitaine apporte quelques gouttes sur le Pays basque et le piémont des Pyrénées atlantiques avant de s'estomper. Et l'après-midi, les nuages ne se limiteront qu'au relief alpin et pyrénéen et ceux du Massif central. Sur le reste de la France, le temps est redevenu pleinement clément et les températures sont en baisse au nord avec des minimales de 9 à 14 degrés sur une grosse moitié nord de la France, 14 à 19 dans le sud, 18 à 23 dans le sud-est. En revanche, les maximales reviennent à la hausse.
Merci Valérie Darmon.
Europe 1.
Dans un instant, un livre pour l'été avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit, Victor Dolande.
Des romans, des BD, des polars, mais aussi des essais. Comme tous les soirs cet été, on fait une halte dans la librairie Mola à Bordeaux. Et ce soir, Stéphane Place nous présente un essai sur un sujet qui paraît un peu obscur et qui s'inscrit pourtant dans notre quotidien. On entend régulièrement le terme d'algorithme, ce qui ne signifie pas qu'on comprenne totalement la portée du mot, d'où l'intérêt porté à ce livre intitulé « De l'autre côté de la machine ».
C'est un terme qui porte sa part de mystère, un peu comme une formule magique à la fois tentante et effrayante. L'algorithme, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? En général, sans savoir bien le définir, on pense aux applications informatiques, à ces algorithmes qui influenceraient nos choix, une manipulation sournoise du progrès. En réalité, la science des algorithmes est bien plus ancienne. Le mot lui-même, on le doit à un mathématicien perse du 9e siècle. Je fais le malin, mais je ne savais rien de tout cela avant de découvrir « De l'autre côté de la machine », voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, que l'on doit à Aurélie Jean, une chercheuse brillante. Géraldine Lafont, libraire chez Mola, vous recommande la lecture de cet ouvrage.
Elle a une vision assez optimiste, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Moi-même, j'avais un regard pas critique, mais assez méfiant par rapport aux algorithmes. C'est vrai qu'on est tous pollués par les publicités sur l'ordinateur, sur le smartphone. En fait, ce qu'elle dit, c'est que généralement, on connaît les algorithmes que par une certaine fenêtre. C'est assez réducteur à côté de ce que tous les algorithmes peuvent apporter.
Et des exemples sur l'impact bénéfique des algorithmes, Aurélie Jean, qui a écrit ce livre, n'en manque pas.
Alors c'est vrai que quand on parle d'algorithme, en fait, on fait souvent référence à des scandales. En fait, les algorithmes peuvent aussi nous aider, ils font beaucoup de choses. Par exemple, les algorithmes sont utilisés tous les jours par des médecins pour pouvoir soit accélérer ou être plus précis dans les analyses biologiques d'échantillons de sang, par exemple, mais ça peut être aussi dans l'utilisation d'algorithmes pour détecter sur des radios, sur des images, soit une perte de densité osseuse, soit une tumeur, etc., etc. Les algorithmes aussi nous aident à nous déplacer sur le chemin, bien évidemment, donc la distance, mais aussi sur la circulation, sur le trafic dans le métro. Et les algorithmes nous servent aussi à développer de nouveaux matériaux, nous aident aussi à tester des pièces, par exemple, d'un avion qui serait en cours de construction. Virtuellement, on les teste. Dans plein d'autres domaines, les algorithmes peuvent aussi aider, par exemple, dans la robotique. C'est dommage, en fait, de ne garder que le scandale et pas tout ce qui peut être fait avec. Et c'est pour ça qu'il faut davantage condamner les gens qui les utilisent mal que l'algorithme lui-même qui n'y est pour rien.
En clair, un algorithme, c'est d'abord un outil et il devient ce que l'on en fait. C'est aussi un chemin virtuel pour régler des problèmes bien réels. Pour mieux le comprendre, il suffit d'aller, grâce à cette lecture, de l'autre côté de la machine.
Merci Stéphane Place. Et on rappelle le titre de cet ouvrage, De l'autre côté de la machine, d'Aurélie Jean, aux éditions de l'Observatoire. Et cette chronique avec la librairie Mola à Bordeaux, vous la retrouverez tous les jours sur Europe 1. Rendez-vous donc demain pour une autre découverte. Autre rendez-vous estival sur Europe 1, La Bonne Idée. Tous les soirs, avec vous, Thierry Dagiral, nous tirons un coup de chapeau à une initiative, à ceux qui, après cette terrible crise sanitaire et économique, se mobilisent et innovent.
Bonsoir Jean-Baptiste Vévry.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur de la plateforme des bras dans ton assiette. On en avait beaucoup parlé au moment du Covid, quand il fallait tenter de résoudre la pénurie de main-d'œuvre dans l'agriculture. Mais le site est toujours actif. Il est encore important en ce moment.
Oui, tout à fait. En fait, le problème de recrutement il est accentué avec la période Covid et la fermeture des frontières. Mais en agriculture, il est toujours un problème. Et donc aujourd'hui, là, on a, pour le mois d'août, on a 30 000 personnes qui sont manifestées en tant que travailleurs potentiels.
30 000 personnes,
et encore 11 000 postes à pourvoir.
À pourvoir, donc il faut aller sur le site, etc. En tout, vous avez eu combien d'inscriptions depuis? Vous l'aviez lancé quoi? C'était la mi-mars, hein, 17 mars?
Mi-mars exactement. Mm-hmm. Alors, il y a eu un gros effet Covid, appel d'air.
Bien sûr.
Le ministre qui en a parlé. Donc aujourd'hui, il y a 347 000 personnes inscrites sur la plateforme.
D'accord.
Bien évidemment, il y a plein de gens qui sont repartis travailler, parce qu'à l'époque, il y avait.
Oui, c'était ceux qui étaient en chômage partiel, les intermittents, etc. Ceux qui avaient du temps, qui pouvaient donner, bien sûr, oui.
Voilà. Donc après, il y a eu un petit écrémage qui s'est fait, mais il y a quand même du monde qui est resté, puisqu'il y a eu que 5% de gens qui ont annulé leur compte. Mm-hmm. Et puis, on a surtout découvert des gens qui n'étaient pas du tout, qu'on découvert le monde agricole.
C'est ça.
On s'est découvert vice versa, en fait.
Et le côté pénible, bien sûr,
Alors, il y a eu le côté pénible pour celui qui peut avoir un boulot un peu pénible. Et puis, il y a aussi des gens qui ont découvert l'agriculture, le plein air, travailler avec la nature, qui est le côté positif. Et encore la semaine dernière, moi, j'ai un agriculteur de Lyon qui a embauché un Parisien franchement, sans la plateforme, il ne l'aurait jamais connu.
Quel profil, justement, il y a en ce moment, là, ceux qui cherchent pour le mois d'août, enfin, les profils que vous recherchez? C'est quel type de profil?
Alors, c'est très lié en fait au boulot qui demande de la main d'œuvre en ce moment, qui vont être les récoltes dans les vergers.
Les récoltes, les vendanges du mois d'août.
Les vendanges qui vont commencer, exactement. Mmh. Et puis après, une trame de fond sur le maraîchage, qui sont les trois gros secteurs qui recrutent. Et puis en quatrième position, vous allez avoir le monde des grandes cultures. Il y a pas mal de travaux avec les moissons.
Donc vous cherchez encore ça, il faut bien le dire. On rappelle le site, des bras pour ton assiette. Grand merci à vous, Jean-Baptiste Vévry. Merci beaucoup.
La Bonne Idée, tous les jours sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. La même photo de Gisèle Halimi à la une de Libération et de l'Humanité. On y voit l'avocate en plein meeting à la Mutualité de Paris en 1972. Les deux quotidiens retracent bien évidemment le parcours de cette féministe décédée aujourd'hui à l'âge de 93 ans. On retrouve son engagement pour l'avortement dans les années 70, ses années sur les bancs de l'Assemblée nationale ou encore son combat anticolonialiste. Deux points tendus l'un vers l'autre, l'un aux couleurs de la Chine, l'autre représentant le drapeau américain. Voici la une du journal La Croix demain qui revient sur la guerre diplomatique larvée entre les deux pays. Plus l'élection présidentielle américaine se rapproche, Et plus Donald Trump multiplie ses attaques contre le régime chinois. À la une des Échos, une interview exclusive de Carlos Tavares, le patron de PSA. Le PDG du constructeur automobile français explique comment son groupe a pu rester dans le vert malgré la crise économique. Il revient aussi sur le projet de fusion avec Fiat Chrysler. Enfin, à la une du Figaro, les mystères des dernières heures du peintre Van Gogh. Un chercheur a identifié, grâce à un photomontage, le lieu représenté dans Racine, le dernier tableau peint par l'artiste hollandais. Cette découverte permet surtout de reconstituer la dernière journée de Van Gogh et de valider la thèse du suicide. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques.